La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ces albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, c'est la journée mondiale sans papier. Alors, on ne parle pas des sans papiers, mais le fait d'utiliser moins de papier. C'est assez ambigu, je sais, je viens de m'en rendre compte. Donc, nous sommes le 6 novembre, c'est la journée mondiale sans papier. Une initiative visant à sensibiliser sur la consommation excessive de papier et ses impacts écologiques. Cette journée met en lumière l'importance de réduire notre consommation de papier et de trier correctement pour limiter la production de déchets. Le processus de fabrication du papier nécessite de grandes quantités de ressources naturel. Pour produire une simple feuille de papier A4, il faut 5 à 10 litres d'eau. À l'échelle nationale, chaque Français consomme environ 170 kg de papier par an, soit 2 arbres. Une consommation qui met à mal les ressources naturelles, surtout avec l'utilisation de forêts résineuses et d'eucalyptus. Réduire notre consommation de papier commence par des gestes simples au quotidien. Il est important de recycler correctement, mais aussi d'adopter des réflexes responsables. Impression recto-verso, réutilisation, stop pub. Par exemple, en s'inscrivant sur des listes stop pub, on évite la réception de publicité inutile. Et bien entendu, réduire l'emballage. Refuser l'utilisation excessive de papier pour l'emballage, comme dans les boulangeries, où le papier est souvent utilisé pour un simple transport. J'en sais quelque chose, j'y travaille. Une fois trié, le papier peut être recyclé pour produire du nouveau papier. Cependant, ce processus a aussi ses limites. Le papier peut être recyclé entre 5 et 7 fois. Ça, je l'ai appris. À chaque recyclage, les fibres de cellulose se fragilisent, ce qui limite le nombre de recyclages possibles. La séparation des agrafes et autres petites particules est nécessaire, mais ne bloque pas le recyclage. Et face à la consommation de papier, le numérique semble une alternative séduisante. Cependant, son impact environnemental est loin d'être neutre. La production des écrans, ainsi que l'énergie consommée par les serveurs du cloud, engendre aussi une empreinte carbone significative. Réduire notre consommation de papier passe par des gestes simples mais efficaces. Réduire, réutiliser, recycler. Qu'il s'agisse de réduire la production de papier ou de mieux recycler ce que nous utilisons, chaque action compte. Si la journée mondiale sans utilisation de papier est l'occasion de se sensibiliser, le changement des habitudes au quotidien est primordial pour préserver nos ressources et réduire notre empreinte écologique. Et maintenant le sommaire. Et ce soir, dans la matinale, nous recevons Mathilde Rogel de l'Observatoire des inégalités, l'autrice du rapport Enquête sur la répression de la solidarité avec les personnes exilées aux frontières. Elle sera interviewée par Éléonore. Dans le Zoom, nous accueillerons RAK, un jeune rappeur parisien. Le Flash Info sera présenté par Samia. Et côté chronique, nous aurons Anaïs à l'actu et Gauthier en chronique libre.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Aujourd'hui, nous recevons Mathilde Rogel pour parler du rapport sur la répression de la solidarité avec les personnes exilées aux frontières. Elle sera interviewée par Éléonore. Bonjour Mathilde Rogel et bonjour Éléonore, et je te laisse la parole.
Avec la réforme de la directive sur l'aide aux personnes migrantes, associations, bénévoles et même familles en exil pourraient bientôt risquer des poursuites pénales pour avoir simplement protégé des vies. L'Union européenne s'apprête à franchir un cap dans la criminalisation des actions de solidarité envers les personnes exilées. Officiellement, l'objectif d'une proposition de la Commission européenne qui revient sur une directive sur l'aide à l'entrée, au transit et au séjour est de lutter contre les réseaux criminels de passage. Mais dans les faits, les termes du projet sont tellement flous qu'ils risquent d'ouvrir la porte à davantage de poursuites. Des poursuites contre des ONG de secours en mer, des associations d'aide juridique ou même des citoyens qui distribuent la nourriture ou offrent un toit. De nombreuses organisations tirent la sonnette d'alarme et demandent la garantie d'une exception humanitaire claire pour empêcher que la solidarité ne devienne davantage un délit. Mais si cette perspective inquiète, c'est aussi parce qu'elle s'inscrit dans une réalité déjà bien concrète sur le terrain. En France, des actions solidaires sont déjà entravées, réprimées. Alors que se passe-t-il aux frontières françaises? Comment cette répression s'exerce-t-elle? Quelles conséquences pour celles et ceux qui aident et pour les personnes exilées? On en parle ce soir donc avec Mathilde Rogel. Merci, bienvenue d'être avec nous plutôt, c'est dans ce sens-là. Tu as travaillé comme chercheuse pour l'Observatoire des libertés associatives et tu as mené l'essentiel du travail d'enquête du 4e rapport de l'Observatoire qui s'intitule « Au mépris des droits ». Enquête sur la répression de la solidarité avec les personnes exilées aux frontières, publiée le 18 novembre 2024. Alors pour commencer Mathilde, quand on parle d'entrave à la solidarité, de quoi on parle? Qu'est-ce que ça signifie?
Alors, merci Léonore. Alors, au sein de l'Observatoire des libertés associatives, on a une approche assez élargie de ce qu'est la répression. Donc, on ne se cantonne pas à la criminalisation au niveau juridique. En fait, on correspond à toute... la criminalisation de la solidarité, elle correspond à toute tentative de la part d'une autorité ou d'une personne qui est détentrice de l'autorité, d'empêcher et de condamner l'apport d'un soutien, que ça soit de fourniture de biens de première nécessité, de soins, d'aide juridique... mais aussi de lutte contre les violences policières par un individu ou un collectif à plusieurs personnes en situation de migration. Ces formes d'entrave, elles sont exercées par de multiples institutions et multiples acteurs, et elles prennent des formes très très diverses. Donc moi, dans ce rapport-là, j'ai élaboré une typologie en fonction des formes d'entrave, et ça correspond aussi à certains acteurs au niveau des frontières. Donc une première entrave, elle consiste, donc celle qui est la plus en général médiatisée et la plus connue, de criminalisation au niveau juridique, mais on va aussi avoir des formes dites d'entraves, donc discursives, qui vont atteindre la légitimité des acteurs associatifs, des entraves policières, financières et matérielles, ou des entraves qui vont relever de l'empêchement de solidarité, de constitution de réseaux de solidarité entre différents acteurs locaux.
Et alors, ces actions-là, elles peuvent être réprimées parfois très violemment ?
Oui, effectivement. Donc là, la question de la violence, elle est plutôt posée dans la catégorie dite de la criminalisation policière, avec parfois des violences verbales, des phénomènes d'intimidation qui peuvent être récurrents. Je parle carrément d'harcèlement policier. Au vu de la fréquence, de la répétition, des associations et des militants particuliers qui vont être ciblés parfois par des individus, il y a des formes d'interconnaissance entre les associations et les forces de l'ordre. Et ça peut aller effectivement aux violences physiques, aux menaces, voire aux atteintes à l'intégrité des militants.
Est-ce que tu aurais un exemple concret, par exemple, d'entrave à la solidarité ?
C'était l'été 2024, en août 2024, des bénévoles de l'association Utopia 56, donc sur le littoral nord, au niveau de la frontière franco-britannique, se sont vus tirer à blanc dans leur véhicule par des forces de l'ordre. Donc on imagine le traumatisme qui peut en ressortir.
Ouais. Est-ce que les associations, en fait, finalement, si elles agissent aujourd'hui, c'est parce qu'elles compensent des responsabilités que l'État ne remplit pas ou plus, notamment en matière d'hébergement, de santé, de nourriture ou d'accès à l'information et aux droits ?
Oui, bien sûr. Par essence, les associations et les collectifs de la société civile en général sont créés pour répondre à des besoins dans la sphère publique, soit revendiquer des droits, soit produire des services qui ne le sont pas par l'État. Après, dans le champ des associations d'aide aux personnes exilées, c'est les associations en plus dites indépendantes, donc qui ne dépendent pas de financement de l'État, vraiment comblent un manque énorme et ont même du mal à combler ce manque, honnêtement, d'autant plus sur les territoires frontaliers où les enjeux humanitaires sont très très importants. Et ce que j'ai aussi observé dans mon rapport, c'est que on a une forme de paradoxe entre des institutions qui se reposent sur les associations, donc vis-à-vis de ces manques et un peu le manque d'assistance aux personnes en transit aux frontières, et ces mêmes acteurs qui vont après criminaliser les mêmes associations qui vont solliciter un certain moment pour acquérir leur aide.
Et alors, cette criminalisation des associations et des personnes bénévoles, est-ce que c'est un phénomène qui est nouveau ?
En fait, on a une forme de criminalisation donc qui est d'abord juridique, qui vient de l'emploi de l'ancien article donc qui a été abrogé, mais l'ancien article du CESEDA, donc le L622-1, qui en fait venait punir toute aide à l'entrée, au séjour, à la circulation sur le territoire français, avec une exception humanitaire et familiale qui avait été insérée dans les années 90. Et en fait, à partir des années 90, cet article-là est de plus en plus utilisé contre les associations, avec surtout une recrudescence dans les années 2015-2016, au moment de la dite crise migratoire au niveau de l'Union européenne. Mais on va avoir donc une certaine jurisprudence avec La question prioritaire de constitutionnalité qui a été posée par Cédric Herrou et Pierre-Alain Mennoni en 2018, qui va donner lieu à la constitutionnalisation, la constitutionnalisation qui va donner une valeur constitutionnelle au principe de fraternité. Ensuite, on va aussi avoir une décision de la Cour de cassation, etc. Au final, en 2020, le dit article est abrogé et il va être remplacé par un article qui intègre de meilleures exceptions humanitaires, en fait. Non, juste, je voulais juste dire que, en fait, depuis que c'est plus difficile de criminaliser juridiquement les solidaires, en fait, on a une recrudescence des autres formes de criminalisation ou d'intimidation, etc.
Est-ce que on peut dire que les autorités empêchent de façon systématique ou quasi systématique les actions des associations pour garantir l'accès au minimum vital, donc encore une fois, l'hébergement, l'hygiène, les soins pour les personnes exilées?
En fait, le caractère systématique ou systémique, ça dépend. On a une grande variation des formes d'entrave en fonction des territoires. Donc moi, j'ai essentiellement travaillé sur les territoires frontaliers. On ne va pas trouver les mêmes formes peut-être d'entrave ou d'intimidation sur les autres territoires. Mais par contre, pourquoi on peut parler de phénomène systémique? Parce qu'on se rend compte qu'en fonction des territoires, en fonction des objectifs politiques liés aux migrations sur ces territoires, on va avoir des formes d'entraves qui varient. Par exemple, au niveau de la frontière franco-britannique, où l'État est contraint par les accords du Touquet avec le Royaume-Uni, on a en fait une politique d'empêchement de quitter le territoire français, donc avec une sécurisation de la frontière et avec le déploiement de forces de l'ordre qui est vraiment immense. Et en même temps, on a une politique de lutte contre les points de fixation. Donc, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que les personnes partent et traversent la Manche, et en même temps on veut pas que ces personnes restent sur le territoire français, en tout cas sur les côtes, et que se forment des camps comme on a eu à Calais avec la jungle, etc. Et du coup ça va vraiment influencer le comportement notamment des forces de l'ordre qui peuvent entrevoir donc l'action des associations comme venant contravenir à leur politique de lutte contre les points de fixation. Et on retrouve des politiques différentes aux frontières sud, qui elles aussi, donc aux frontières sud on est plutôt sur une politique du chiffre d'empêchement de l'entrée des personnes sur le territoire français, par exemple au niveau de l'Italie, au niveau de l'Espagne, qui vont aussi là un petit peu dicter les formes de répression.
Est-ce que le but finalement de cette répression, c'est de décourager celles et ceux qui aident, et puis donc les personnes exilées, et quels sont les effets de cette répression, les conséquences?
Alors on a une conséquence principale déjà qui est matérielle, avec les phénomènes de multiverbalisation, donc des associations qui perdent des milliers d'euros. Pour des associations qui ne reçoivent pas de subventions publiques, c'est un choix politique certes, mais qui ont parfois des budgets un petit peu modestes, ça peut être très compliqué de se relever de ça. C'est aussi extrêmement chronophage pour les membres de ces associations qui quand même partent du principe qu'elles contestent toutes les amendes, qu'elles contestent les comportements par exemple violents ou physiques ou verbales qu'elles peuvent recevoir de la part des forces de l'ordre dans leurs actions. Et donc à chaque fois ça demande l'envoi de courriers, des saisines, la mise en place de référés liberté, etc. Et du coup c'est extrêmement chronophage, et toutes ces ressources là que ça soit matériel ou en termes de temps, d'énergie humaine, etc., c'est de l'énergie qui est pas mise en fait dans les missions de terrain. Pareil pour l'argent, parce qu'il y a des associations qui dont la mission principale c'est de délivrer du matériel par exemple. Donc tout l'argent qui est mis dans ces démarches-là ou dans les amendes, il n'est pas mis dans l'aide aux personnes. Donc ça, c'est matériel. Et ensuite, au niveau humain, on va dire que c'est quand même épuisant pour certaines personnes. Il y a eu des moments où il y avait des pics d'entrave, des pics de harcèlement policier, etc., où ça fatiguait excessivement les équipes, avec quand même, dans ce milieu-là, notamment à la frontière, quand même, c'est un milieu associatif où on connaît beaucoup de burn-out, etc. Donc ça fatigue, et aussi un surcontrôle, ça amène à un surcontrôle des personnes qui viennent en fait s'autopolicer dans une certaine manière.
Et justement, qu'est-ce que ça veut dire en fait le fait de s'autopolicer? Donc ils modifient leur façon d'agir par crainte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, exactement. En fait, donc face à ces entraves, en fait, vraiment répétitives. Donc là, je pense aux amendes contre les véhicules ou contre les personnes. En général, c'est contre les véhicules ou les contrôles d'identité ou les contrôles de véhicules. Donc, qui peuvent être quotidiens. On a en fait des bénévoles qui vont s'auto, donc comme je l'ai dit, et c'était le terme employé d'ailleurs par un de mes enquêtés, qui viennent s'autopolicer. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont surcontrôler. Tout, par exemple, leur apparence, leur comportement, les véhicules. Par exemple, quand on s'est pris 3 fois une amende parce qu'on n'avait pas de liquide lave-glace, du coup, avant de sortir sur le terrain, on regarde qu'on a du liquide lave-glace. C'est toutes ces petites choses qui ont un impact finalement et qui amènent quand même une certaine charge mentale pour les équipes.
Merci, on va faire une petite pause musicale, et on écoute Mystique de Pierre et The Stomper. C'était Mystique de Pierre et The Stomper.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Nous sommes toujours avec Mathilde Roger. Nous parlons du rapport sur la répression de la solidarité frontalière. Éléonore, c'est à toi.
Alors Mathilde est en train de nous parler des pratiques d'autopolice. Donc c'est quand les militants solidaires modifient leur façon d'agir. Est-ce que tu penses que ces actions finalement de répression, elles ont des conséquences encore importantes sur le positionnement, par exemple, des bénévoles?
Je pense que le caractère répétitif et systématique, notamment envers certaines associations, au niveau des frontières, de l'usage du contrôle d'identité ou de l'amende à répétition, donc ce qu'on appelle la multiverbalisation, elle a quand même, c'est quand même en fait une forme d'outil de disciplinarisation de certaines populations qui sont pas. Désirés dans l'espace public. Concernant la multiverbalisation, il y a une chercheuse qui s'appelle Aline Dyer qui a travaillé sur ça et qui montre comment cet outil-là est utilisé par les forces de l'ordre en fait pour notamment contre les jeunes hommes des quartiers populaires, pour contrôler en fait leur circulation et leur occupation de l'espace. Dans une moindre mesure, ça peut être une analyse qui peut être transposée, je dis bien dans une moindre mesure parce que le phénomène est bien sûr pas aussi massif, mais à certains militants et certaines associations au niveau des frontières. Et donc oui, ça conduit les bénévoles à développer une forme de charge mentale, voilà, sur leur contrôle, aussi sur leurs interactions aussi avec les forces de l'ordre, pour minimiser sans cesse le risque d'avoir une amende, de rentrer dans une interaction de conflit, etc.
Et donc ce que tu montres, c'est que parfois donc les militants se modèrent, mais aussi peuvent se radicaliser et avoir des positions un petit peu plus politisées sur le sujet aussi.
Effectivement, mais ça reste quand même minoritaire. Alors ça existe, notamment, c'est surtout des choses qu'on m'a remontées au niveau de la frontière franco-britannique, de bénévoles qui arrivent, relativement politisés. En fait, la confrontation notamment avec les forces de l'ordre sur le terrain va, dans une certaine mesure, radicaliser leur positionnement vis-à-vis de la police et de la gendarmerie. Mais ce qu'on observe quand même, ce que moi j'ai observé en tout cas dans un certain nombre d'entretiens, c'est en fait l'effet inverse de personnes qui vont chercher à dépolitiser leur action, alors que... en tout cas dans ce contexte-là, avec le nombre d'acteurs et d'autorités qui agissent sur ces territoires-là, ça reste en tout cas selon moi des actions très politiques de venir en aide aux personnes, peu importe la façon de laquelle on le fait. Mais du coup, des personnes qui vont dépolitiser leur action en cherchant à se soustraire, en disant moi je fais juste une action, je donne juste à manger, c'est humanitaire, point. Ou voir des personnes qui vont s'auto-censurer en fait. Soit qui vont se rétracter du champ associatif et militant, soit il y a des personnes qui m'ont posé l'hypothèse que certaines personnes dans des territoires notamment un peu plus insulaires, je pense plutôt au niveau de la frontière franco-italienne, se seraient peut-être engagées mais l'ont pas fait au vu de la répression.
Et face à ces entraves, que font les associations pour se défendre et continuer leur mission d'aide aux personnes exilées?
Alors, comme je l'ai expliqué juste avant, quand je parlais des coûts, c'est le principal recours, en fait, c'est la contestation légale, c'est-à-dire la contestation des amendes, etc. Le fait de saisir, vis-à-vis des comportements policiers, par exemple, l'IGPN, de saisir aussi les instances juridiques. Après, on assiste aussi de plus en plus à des tentatives de médiatisation, de visibilisation de ces entraves, puisque les recours... on va dire juridique, peine à à faire évoluer les choses, avec aussi des saisines, il y a eu un certain nombre de saisines de la Défenseur des droits, par exemple, qui elle, avait le pouvoir de mener des enquêtes plus approfondies. Je pense à notamment une saisine par l'association Human Rights Observers, du coup, sur le littoral nord, de la Défenseur des droits, justement par rapport à ces phénomènes de multiverbalisation. Et la Défenseur des droits avait pu mener son enquête au niveau du commissariat de Calais et avait effectivement révélé que certains ordres avaient été donnés donc par la hiérarchie aux agents de terrain de cibler les membres de HRO. Et qui était donc considérée comme une association plus contestataire, qui, en tout cas par les forces de police, qui ne menait pas un travail légitime sur le territoire. Et donc ça peut quand même aboutir en tout cas à certaines révélations.
Et alors, est-ce que les recours juridiques, tu disais, parfois peinent à faire changer les choses, de quelle manière est-ce que les associations ont de l'espoir quand même quand elles font ce genre de recours?
Ça a quand même abouti un certain nombre de fois. Par exemple, je pense à des recours interassociatifs qui ont quand même été portés contre la municipalité de Calais vis-à-vis des distributions alimentaires au niveau du Conseil d'État. Le Conseil d'État a tranché et maintenant la ville est obligée de mettre en place un minimum de dispositifs pour le respect des droits humains et notamment au niveau alimentaire. Donc ça peut marcher, mais comme je disais, c'est extrêmement chronophage, ça demande énormément de ressources, et ça prend beaucoup de temps. Et à Calais, il y a aussi le fait que la situation est beaucoup plus visibilisée que sur d'autres territoires, notamment au niveau du Dunkerquois, de l'autre côté de la frontière franco-britannique.
Certains militants et militantes utilisent aussi la désobéissance civile pour dépasser les interdictions et affronter les intimidations. Est-ce que tu penses que c'est un mode d'action qui, d'après eux en tout cas, est efficace et peut être stratégique?
Alors le « eux » doit être déconstruit parce que, évidemment, au sein de... Enfin, on ne l'a pas trop abordé, mais au sein de... Et j'ai essayé, moi, de l'aborder au niveau de mon rapport, mais le champ de la solidarité envers les personnes exilées en France est extrêmement hétérogène. Donc, il y a tout un... Enfin, il y a même... J'irais même pas un seul spectre, il y a plusieurs spectres avec un côté plus contestataire, d'autres des associations qui, elles, sont en meilleur terme aussi avec les autorités. Il y a des associations financées par l'État et des associations qui ne le sont pas, et c'est aussi un choix politique pour garder une autonomie du discours. Donc on n'a pas d'hétérogénéité des associations, même au sein de celles qui ne sont pas affiliées à l'État.
Est-ce que donc cette désobéissance civile, oui, elle peut être efficace?
Pour certains collectifs, oui. Certains s'en revendiquent et voudraient mener plus d'actions.
Est-ce que tu aurais un exemple?
Alors je sais plus en quelle année c'était, mais c'était au moment des arrêtés anti-distribution donc à Calais. Et en fait, ils ont été renouvelés vraiment pendant plusieurs années. À un moment, c'était des arrêtés au niveau de la mairie, et puis après, c'était au niveau de la préfecture. Ça a été mis en place par la préfecture. Donc ça a duré plusieurs années, et à deux reprises au moins, des associations, un collectif inter-organisation, et aussi des personnes non affiliées aux organisations ont mis en place des distributions, mais quand même organisées. Enfin, voilà, ils disaient des goûters solidaires, en fait, où ils assumaient le fait de contrer en fait ces arrêtés anti-distribution.
Et alors, quelles seraient les mesures peut-être nécessaires pour que les droits fondamentaux et la dignité des personnes exilées soient effectivement protégés?
Vaste question. Je crois que c'est juridiquement, il y aurait énormément de choses à faire, évidemment. Je pense que déjà au niveau... Parce qu'en principe, les personnes solidaires actuellement, elles sont quand même relativement protégées. Je dis les personnes solidaires françaises, membres d'associations, parce que mon rapport, il porte du coup quand même sur des personnes qui sont en situation régulière en France ou en Europe, etc. Mais je vais quand même rappeler que la plupart des personnes qui sont condamnées par le CEDEDA sont des personnes qui sont solidaires entre elles, mais qui sont elles-mêmes migrantes. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est aussi, déjà, je pense, pour les personnes les personnes solidaires elles-mêmes, ce serait déjà visibiliser le fait que, en fait, beaucoup de gens, notamment sur ces territoires-là, croient toujours que aider une personne, je veux dire l'aider, même l'héberger, de façon sans contrepartie, est illégal, alors que c'est pas du tout le cas, qu'il y a des exceptions humanitaires. Donc déjà visibiliser ces exceptions là et de façon générale, je pense, décriminaliser les discours sur l'immigration et sur les personnes migrantes, bien sûr, elles-mêmes.
Et est-ce que, pour finir, tu pourrais nous parler d'autres exemples de criminalisation pour qu'on se rende compte de ce que ça représente pour les difficultés que ça représente pour les associations?
Il y a une forme d'entrave qui a beaucoup surpris et qui est peu visibilisée, qui est juridique, mais qui n'a aucun rapport en fait avec le CEDEDA. C'est en fait une forme de détournement du droit lié à l'habitation, de détournement du code de la construction et de l'urbanisme, qui a notamment été utilisé par la mairie de Calais contre l'association Collective Aide, donc une association qui proposait en fait un local avec la possibilité de faire des lessives, etc., pour les personnes exilées de Calais. Et en fait, par décision administrative, en fait, en utilisant donc ce code-là de l'urbanisme et de la construction, qui n'a rien à voir avec les personnes en migration ou les associations, a réussi à contraindre l'association à stopper ses activités en la contraignant en fait à fermer ses locaux.
Et ben merci Mathilde, c'est déjà la fin de cette interview.
Merci Mathilde Roger, merci Éléonore. Et tout de suite, c'est le Flash Info avec Samia.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Alors on commence en France avec la journée nationale contre l'harcèlement scolaire. À l'occasion de cette journée, un sondage de l'entreprise Odoxa qui travaille pour l'association Sœur Emmanuelle a été publié. On observe que le harcèlement passe par des moqueries, des insultes ou des menaces. Il peut aussi prendre d'autres formes comme des pressions psychologiques, l'exclusion sociale, des rumeurs, le silence imposé, allant jusqu'aux violences en ligne qui représentent 14% et aux agressions physiques 23%. Menant des conséquences physiques et psychologiques majeures comme une perte de confiance pour 44% des victimes, des troubles du sommeil ou de l'alimentation, allant jusqu'au décrochage scolaire pour 37% d'entre elles et des symptômes dépressifs pour 15%. Fait divers, une conférence de presse donnée à 18h par le procureur Arnaud Larez a fait suite aux événements qui se sont déroulés mercredi à l'île d'Orléans où un chauffeur avait percuté deux victimes. Le suspect décrit comme polytoxicomaniaque était sous l'emprise de cannabis au moment des faits. Lors de sa garde à vue, le suspect a évoqué aucune aide extérieure pour son passage à l'acte. Également, le parquet antiterroriste n'a pas déterminé pour le moment de lien avec des organisations terroristes. International maintenant, ce jeudi 6 novembre, l'armée israélienne a annoncé avoir mené des frappes vers le sud du Liban, après avoir appelé les habitants de trois villages du pays à évacuer. Israël accuse le parti politique et groupe paramilitaire islamiste chiite libanais Hezbollah de se réarmer. Face à l'intensification des attaques, Hezbollah a affirmé son droit légitime de se défendre. En effet, le groupe a rejeté toute négociation politique entre le Liban et Israël, affirmant que ces accords ont pour but de vouloir, je cite, « entraîner le Liban vers un accord politique qui ne sert pas l'intérêt national ». Ces attaques menées jeudi brisent l'accord de cessez-le-feu qui a été établi en novembre 2024. Au préambule de la COP30, située à Belém, au Brésil, un sommet a été organisé ce jeudi 6 novembre entre les chefs d'État. Certains dirigeants n'ont pas assisté au sommet, dont le président des États-Unis Donald Trump, le président de la Chine Xi Jinping, qui a envoyé son vice-premier ministre Ding Xuexiang et l'absence de Narendra Modi, premier ministre de l'Inde. Le pays hôte, le Brésil, avait pourtant annoncé que 57 dirigeants avaient confirmé leur présence à ce rendez-vous qui a pour but d'encourager les échanges de la 30e conférence des Nations Unies sur le climat. On termine avec le point culture. L'Opéra de Lille présente l'adaptation du roman Écume des jours de Boris Vian, basé sur la composition de Edison Denisov, cette dernière finalisée en 1981. C'est la franco-polonaise Anna Sumlar qui en est la metteur en scène. Le livre transpose l'histoire dans une ambiance de mai 68, s'appuyant sur la description d'une jeunesse libre qui interroge radicalement le sens du mariage, du travail et de la religion.
Merci Samia, c'est tout de suite, on va écouter Paralysé de Prima.
L'impression de devenir parano, des monstres dans la chambre et dans le dos. Plantez vos couteaux, j'ai besoin d'air. Je dors avec les yeux grands ouverts. Toujours à l'affût de la prochaine traîne, prête à décrocher mon happy end. Trahis-moi, mais pas d'un follow. J'peux plus m'arrêter de swiper. S'il reste trop, j'ai peur m'attacher. Pas de sommeil pour mon avatar. Toujours quelque chose à promouvoir. Elle sait qu'elle est loin son utopie. Il n'y a que quand on est vu qu'on vit. Mais elle, elle dit qu'elle n'est qu'une infiltrée. Pourtant, on dirait bien qu'elle s'y plaît. La peur de finir poussière, ou encore pire en enfer. Je veux pas que la mort m'arrête, mais que je survive à la terre. Trahis-moi, mais pas d'un polo. Je je peux plus m'arrêter de swiper. S'il reste trop, j'ai peur m'attacher. Paralysé, paralysé, paralysé par les réseaux. Je peux plus m'arrêter de swiper. Je crois qu'ils ont hacké mon cerveau.
C'était Paralysé de Prima sur Radio Campus Paris. Vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, on est avec Anaïs dans le studio qui va nous parler, nous faire sa chronique. Bonjour Anaïs.
Bonjour Fabien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc ce soir, je vais vous parler du manque d'AESH, à savoir d'accompagnement des élèves donc scolaires handicapés, des inégalités fortes selon les académies. En effet, dès la rentrée 2025, le constat est sans appel. Près de 50 000 élèves en situation de handicap étaient en attente d'un accompagnement. En effet, selon des données officielles, certaines académies sont plus touchées que d'autres, entre autres Aix-Marseille ou encore l'Île-de-France. Selon des chiffres communiqués par la Direction générale de l'enseignement scolaire, 31% des besoins sont non couverts avec 4725 élèves en situation de handicap en attente d'un accompagnement à la rentrée. Donc avec 7587 élèves au sein de l'Académie d'Aix-Marseille. 33,7% des élèves sont notifiés pour un accompagnement par un AESH dans cette académie, soit 22 768 élèves. Le taux est encore plus élevé dans les Bouches-du-Rhône avec 6949 élèves sur 16064 notifiés, soit 43,3%. Sébastien Saint-Pasteur, député socialiste, a évoqué lors d'une audition du ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, des différences importantes tout en comparant le cas des académies d'Aix-Marseille et de Bordeaux avec seulement 2,95% des besoins qui en sont. Ne sont pas pourvus, soit 568 élèves en attente d'un sur 17 893. Au sein de l'académie de Créteil, on constate que 6210 élèves sur 28 097 sont en attente, soit un taux de 22,1%, et 5697 sur 26 786, soit un taux de 21,3%. Pour celle de Versailles, ce taux monte à 36,9% dans le Val-de-Marne et 29,1% dans l'Essonne. Toujours selon Édouard Geffray, le nombre d'élèves sans accompagnement à la rentrée était de 50 000 contre 36 186 l'an passé et aux alentours de 42 000 au moment des vacances de la Toussaint. Concernant les différences entre les académies, il a promis une vérification attentive des chiffres.
Merci Anaïs, vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris et tout de suite c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Ce soir, dans le Zoom, nous recevons R.A.K. C'est un jeune rappeur talentueux du 19e arrondissement. Il est interviewé par Tom. Bonjour R.A.K.
Bonjour.
Bonjour Tom.
Salut Fabien.
Et c'est à toi.
En effet, je suis avec le rappeur R.A.K. aujourd'hui. Alors, il y a trois choses avant de commencer. Ça s'écrit R.A.K. On ne doit pas dire R.A.K. Et on doit absolument écouter ce qu'il fait parce que c'est franchement très bien. R.A.K., bonjour.
Bonsoir Tom, merci de me recevoir.
Alors R.A.K., t'es un artiste, un rappeur indépendant du 19e arrondissement de Paris, du côté des buts de Chaumont, t'as jamais bougé du coin, t'y es très attaché. Ça fait 6 ans maintenant que tu publies des morceaux, est-ce que j'ai bien résumé ?
C'est ça, globalement, ça fait 6 ans que je fais de la musique, un peu moins que je publie par contre des sons, ça va faire à peu près 4 ans là, début novembre, 4 ans. Mais globalement c'est ça, 6 ans d'écriture et 6 ans de passion quoi, total.
Ok, alors comme tu le sais, on est sur une radio associative ici, t'es étudiant tout comme moi, qu'est-ce que tu fais comme master, et comment est-ce que t'arrives à conjuguer la musique et tes études ?
Alors moi du coup je suis en première année de master d'infocom, parcours communication des entreprises et des institutions, Et c'est un peu compliqué de conjuguer passion et études. Je pense que c'est le cas de pas mal d'étudiants en France et partout dans le monde. Mais ouais, c'est vrai qu'en master, quatrième année d'études quand même, on commence à avoir un peu l'habitude de jongler entre plusieurs tâches, un peu organiser son temps. C'est compliqué au début, mais après, quand on prend le rythme, c'est plus un défi qu'autre chose. Donc en vrai, c'est cool aussi. Je me voyais pas spécialement arrêter les études dans le sens où moi, j'aime bien faire plein de choses, j'aime bien être actif. Donc en vrai, c'est surtout un plaisir.
Ok. On peut parler de tes débuts un petit peu. Donc 4 ans, pas 6 ans, pardon. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à te lancer?
Franchement, je me suis lancé parce qu'autour de moi, il y avait pas mal de gens qui se lançaient. Je voyais pas mal de rappeurs, que ce soit dans mon quartier ou quoi, qui commençaient la musique. Donc en vrai, ça m'a un peu guidé, on va dire, vers au moins la tentative du truc. Et après, une fois que j'ai essayé, en fait, ça m'a pris vraiment tout de suite, quoi. Et donc après, bah, petit à petit, je me suis impliqué et c'est comme ça que je me suis lancé. Mais en fait, bizarrement, c'est pas forcément mes idoles qui m'ont poussé à me lancer, tu vois. C'est vraiment plus l'entourage, voir qu'autour, ça bouge, ça fait des choses et tout. En vrai, ça donne envie de faire des choses, quoi.
Ok, bah alors justement, t'as eu à l'époque, je suppose, et tu as aujourd'hui des influences musicales. Est-ce que ça se ressent dans ta musique?
Est-ce que ça se ressent, ça, je sais pas forcément. En vrai, c'est plus aux auditeurs de me le dire. Après, moi, c'est vrai que j'écoute énormément de musique, beaucoup de rap, français, américain. J'essaie vraiment d'écouter un peu de tout parce que je trouve ça super important d'avoir beaucoup d'influence, de savoir ce qui se fait aussi en vrai. Parce que si tu veux être dans un mouvement, dans une culture, c'est important d'en avoir les codes pour respecter tout ça. Donc en vrai, j'écoute beaucoup de choses. Après, est-ce que ça se ressent dans ma musique? Ça, moi, forcément, je pense que j'ai pas le recul. Mais ça, c'est aux auditeurs d'en décider, quoi, finalement.
Ok, alors concrètement, comment ça se passe pour toi quand tu fais un morceau de A à Z? C'est quoi les étapes? T'as une étape préférée, je sais pas, le choix de l'instru, quand t'écris, quand tu vas en studio?
Bah ça c'est, en fait tu vois, la conception d'un morceau, en vrai c'est quelque chose qui évolue tout le temps. En vrai, dans ma vie, j'ai eu plein de phases différentes. Avant, j'étais vraiment un grand amateur du studio, j'allais beaucoup beaucoup au studio. Je travaillais chez moi avant, toujours, j'écris toujours mes morceaux à l'avance, même je les enregistre une première fois chez moi et après j'allais en studio. Mais en fait, à force de bosser, à force de faire du son chez moi, j'ai vraiment commencé à prendre goût à travailler à la maison, à avoir un peu mes petites habitudes, mes petits réflexes et tout. Donc en plus, c'est marrant que tu me poses cette question parce que genre en vrai, je suis en plein changement par rapport à ça et je diminue pas mal le studio et je travaille beaucoup chez moi en ce moment. Donc voilà.
Ok, bon alors on sait que t'as sorti plusieurs gros projets, 3 actuellement, on peut les citer: Histoire d'une passion, Le jardin des rêves et La tulipe parmi les orties. Est-ce que tu peux me parler de ce que ces 3 projets représentent pour toi?
Bah c'est ces 3 projets qui m'ont forcément marqué parce que ça a été des projets sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps. Mais bon bah pour parler du premier déjà, Histoire d'une passion, ça représente en vrai je pense le projet sur lequel j'ai le plus travaillé dans ma vie parce que en vrai j'ai été dessus pendant plus de 2 ans, donc ça a été vraiment la première grosse brique que j'ai posée dans ma entre guillemets discographie, tu vois. Le jardin des rêves et même La tulipe parmi les orties, c'était beaucoup plus spontané, mais malgré tout, enfin quand tu travailles sur un projet avec autant de titres, genre en vrai forcément c'est quelque chose qui te prend énormément de temps et ça te marque forcément. Mais en vrai, je vais te dire que Le jardin des rêves et La tulipe parmi les orties, je pense que ça a été plus en vrai des tremplins pour moi pour en vrai préparer la suite et me porter vers ce que là je suis en train de faire maintenant, quoi.
Ok, alors c'est pas ton registre forcément, mais je sais que t'es très attaché à ton quartier, donc on le rappelle, le 19e arrondissement de Paris. Il y a un essor de rappeurs du coin qui perce actuellement, JRK, La Mano 19, La Rafleuse. C'est aussi le coin d'MHD à l'époque, d'Oxmo Puccino. Ça te fait quoi, toi? Tu t'identifies un petit peu à ces gars-là ou pas?
M'identifier pas spécialement, tu vois, parce qu'en vrai genre on a quand même on fait pas la même musique, on vient pas forcément des mêmes endroits, j'ai même pas forcément de lien avec ces mecs là tu vois, mais par contre j'écoute beaucoup et surtout en vrai, enfin ça fait trop plaisir parce qu'en vrai quoi qu'il, quand tu vois qu'il y a des mecs qui sont en train de devenir des stars genre comme La Mano ou comme La Rafleuse et tout et que ça vient de vers chez toi, c'est un peu une petite reconnaissance. Et donc en vrai genre forcément tu vois, c'est quelque chose qui touche, qui fait plaisir et c'est trop cool parce que là ce qui se passe en ce moment dans le 19e, c'est génial. Et par contre c'est inspirant parce que du coup tu te dis ok, là il y a toute cette génération là qui est en train de péter vers chez nous, en vrai ça se trouve après c'est notre tour et tout, donc en vrai genre c'est trop important, c'est trop cool.
Ok, je suppose que t'es hyper fier de venir du 19e.
Bah forcément, je pense que tout le monde est un peu fier de venir de là où il vient quand même.
Ok, alors t'as quoi là à nous proposer dans les prochains mois? Une scène, un nouveau projet peut-être?
Bah mon prochain projet est imminent. C'est un projet commun avec mon frérot AZM avec qui j'ai commencé la musique. C'est un album sur lequel on travaille depuis janvier. Ça a été énormément d'heures de boulot, énormément de plein de choses. Vraiment une aventure incroyable en vrai. J'ai vraiment hâte que vous le découvriez. Ça va arriver très très rapidement.
Ok, est-ce que t'as une scène aussi peut-être ?
Bah forcément, nous avec Mathis, enfin AZM du coup, on est très très attachés à l'aspect scène. C'est quelque chose qu'on aime trop faire. Donc forcément, le projet sera accompagné d'un concert, c'est clair. Et moi, je pense déjà aussi, enfin je commence déjà un peu à préparer mes scènes solo pour l'an prochain. Donc ouais, l'an prochain, il y aura de la scène. Si vous êtes des adeptes des concerts, n'hésitez pas, on va vous régaler.
Trop bien. Et c'est pour avant la fin de l'année là, le projet ?
Bien sûr, c'est pour avant la fin de l'année. C'est vraiment imminent.
Ok. Et en 2026, t'as des idées ?
Ouais, carrément. Je prends beaucoup d'avance en ce moment et justement, tu vois, ça colle un peu avec ce que tu disais tout à l'heure sur justement la manière de bosser, etc. Vu qu'en ce moment, je bosse beaucoup plus de chez moi, ça me permet de mieux gérer mon temps, de prendre plus d'avance et tout. Donc en ce moment, je fais énormément de musique et je prépare vraiment bien l'année prochaine. Il y a vraiment plusieurs projets qui sont en cours pour l'année prochaine, certains même qui sont presque finis. Et surtout, en vrai, je suis en train de bosser sur le plus gros projet de ma vie, le projet où il y aura le plus de titres, celui qui, en fin de compte, m'aura pris le plus de temps à concevoir. Ça aussi, je me prends pas mal la tête en ce moment parce que c'est un truc que je veux faire depuis que j'ai commencé en vrai. Et bon, ça pour le coup, c'est pas pour tout de suite, mais ça va arriver l'année prochaine.
Ok. Avant de finir, est-ce que tu pourrais nous conseiller 3 morceaux de ta discographie ?
3 morceaux de ma discographie comme ça. Je dirais Symbiose parce que c'est un single que j'ai sorti cette année et je trouve que ça change un peu justement de ce que je fais d'habitude. Mais par contre, si vous voulez apprendre à me connaître plus dans mon registre, je peux vous conseiller Comme 50 Endurac sur Le Jardin des Rêves ou Brûler Ensemble sur La Tulipe parmi les orties.
Merci beaucoup Eraka. Tout de suite, on va s'écouter un morceau issu de ton dernier projet. Pardon. C'est dispo partout, ça s'appelle Brûler Ensemble, Fabien.
En grattant de nuit, je suis devenu parano. J'ai des cahiers de peura, t'as des feuilles de ragot. Et t'as des flots raccros, t'as de la chance si je décroche mon ro.
Dans Paris 19, je me sens seul. À croire que j'ai provoqué mon seul. La pluie se confond avec mes larmes quand j'ai mal à l'âme.
Pas de jour off dans ma vie de self-made. Vendredi noir, ces rappeurs sont sur des sextapes. Une nuit à courir après l'inspi vers cet AM. Une ombre dans la nuit, au final gros c'était elle. Contre le micro, je fais la guerre comme Jay-Z et Nas. Hey, Grézy, les basses, baby réside chez moi. J'hésite pas quand je la vois, je décide quand c'est ma voix. Cabagnale et la foi, peut-être que c'est ça ma voix. Fuck, une vie oppressante. J'ai monté Cabagnale pour assurer ma descendance. Pas trop des réseaux, l'objectif finalement c'était de percer sans danse. On a renié l'enfance, on a saisi la chance.
En grattant de nuit, je suis devenu parano. Au fond du lac, j'ai tes espoirs à l'eau. Incompris comme Adis, j'installe la parabole. Si t'as choisi ce côté, tu sais que je pars à l'autre. En grattant de nuit, je suis devenu parano. Au fond du lac, j'ai mes espoirs à l'eau. Incompris comme Adis, j'installe la parabole. Si t'as choisi ce côté, tu sais que je pars à l'autre.
Faut que je mène ma conquête comme le RT de Zeta. Mais le game s'affaiblit, il a de l'eczéma. J'écoute tout ce qui sort et je me demande pourquoi cet ADN décède d'Aline en story. Au studio, sont dans quels états. Du coup, aux premières rimes, on crie au nouveau crack. Moi, je suis en première ligue, but au Goodison Park, un groupe indissociable. On prend les épreuves de la vie et on les brûle ensemble. Retour au collège, on portait les mêmes ensembles. Je pensais qu'on aurait pu faire tout ce beau chemin ensemble. En transe, elle est en transe quand je pose au mic. Toi t'as servi à rien dans l'équipe comme Crico. Tu sers pas l'équipe, ils se plaignent leur quotidien genre ils habitent en Palestine. Je peux leur donner du temps mais en tout cas j'ai pas l'estime. Tant que j'ai confiance en moi t'inquiète même pas y'a rien qui signe. Let's go. En grattant de nuit je suis devenu parano. Au fond du lac j'ai tes espoirs à l'eau. Incompris comme Adis j'installe la parabole. Si t'as choisi ce côté tu sais que je pars à l'autre. En grattant de nuit je suis devenu parano. Au fond du lac j'ai mes espoirs à l'eau. Incompris comme Adis j'installe la parabole. Si t'as choisi ce côté tu sais que je pars à l'autre.
C'était Brûler Ensemble de RAK. Vous êtes sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h qui se termine. Et aujourd'hui, justement, c'est Gauthier qui termine en beauté cette matinale. Bonjour Gauthier.
Bonsoir, cette semaine c'est ma 71e chronique sur ces ondes. Et cette semaine, ma chronique est sponsorisée. Vous avez toujours rêvé d'accéder au monde des défunts? Avec le nouvel outil en ligne MoreVPN, c'est désormais chose possible. MoreVPN, c'est une formule à 4 niveaux d'abonnement. Au premier niveau, vous avez le droit à 15 minutes de visio par semaine avec Saint-Pierre. Au deuxième niveau d'abonnement, vous pourrez rencontrer votre héros préféré de votre mythologie préférée. Si vous aimez la mythologie grecque, rencontrez Hercule, faites des haltères ou embrassez ses biscottos ou je sais pas trop. Dégustez vous-même un petit bout de foie de Prométhée sur son lit de serre. Ou bien assistez à une session roulage de cailloux avec Sisyphe qui vous donnera ses meilleures astuces afin d'optimiser la montée sans anicroche. Si votre mythologie préférée, c'est plutôt la mythologie bretonne et que vous avez dans votre biographie le hashtag emoji BZH, alors on vous proposera de vous faire farcer par des korrigans qui vous voleront tout ce que vous aurez de plus cher. L'Ankou viendra même vous chercher pour vous faire une petite visite des monts d'arrêt. Mais si vous êtes plutôt mythologie japonaise, alors là, on vous envoie un lien pour regarder en streaming le film Yoroi avec Orelsan. Vous serez pas déçu du voyage. Et au troisième niveau d'abonnement, on vous propose de vous faire hanter par un défunt coincé dans une maison abandonnée en Bourgogne. De vous faire hanter. Un fantôme viendra dans votre maison pour faire tomber des trucs la nuit, faire des petits rires dans vos oreilles pour vous réveiller. On a aussi le forfait possession, si c'est plus ça votre délire, mais je ne jugerai pas les kinks de tout un chacun. Mais en tout cas, on vous assure que la personne sera bien défunte, qu'elle est inscrite dans tous nos registres et n'attend plus qu'à trouver le parfait humain afin d'accéder à l'au-delà. Et enfin, au niveau ultime d'abonnement, on vous répond à votre question: est-ce qu'il y a une vie après la mort? Et je vous le dis tout de suite, la réponse était très... Pardon pour cette interruption. Pardon? Désolé, j'ai pas bien compris. Il se passe quoi? Quoi? Ah, c'est ça, j'ai pas fait gaffe. Je savais qu'il y avait une malédiction, j'ai pas fait... Je sais pas si vous avez des...
La qui est tordu.
Ah, mais d'accord! Mais c'est vous! C'est vous le fantôme à la quéquette tordue! Enchanté! Vraiment, je suis vraiment super fan. J'entends votre nom depuis que je suis tout petit. Est-ce que vous pouvez me signer un autographe? Voilà un stylo. Ah! Oui, pardon, j'avais oublié que vous n'étiez pas sous votre forme physique. Prenez vos aises. Je vous laisse faire votre première chronique, même si vous êtes un peu en retard parce qu'Halloween, c'était il y a une semaine. Mais on a été comblés par votre quéquette et on vous pardonne tout. Rendez-vous demain, donc, pour la première chronique de ce fantôme à Radio Campus Paris. Je suis sûr que ça va être super. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et merci, MoreVPN, pour tout l'argent que j'ai reçu. Avec ça, je vais pouvoir financer au moins mes deux prochaines chroniques. Salut!
Eh ben, merci Gauthier pour cette chronique surnaturelle. Et la matinale se termine. La matinale de 19h est terminée. Merci à Mathilde Roger et Éléonore pour l'interview. Merci à Tom pour le zoom. Le zoom, oui, c'est ça. Et bien entendu, merci à RAK. Merci à Anaïs et Gauthier pour leur chronique. Merci à Samia pour le flash info. Et merci à Aude et Jeanne pour la coordination de la matinale. On se retrouve lundi pour une nouvelle matinale, même heure, même fréquence. Restez à l'écoute de Radio Campus Paris. Passez une bonne soirée sur le 93.9 FM.